1, 2, 3, 4, 5, 6.
Salut, c'est Yann pour l'émission Le Grand Tout. Très heureux de vous retrouver après une semaine de pause. Le Grand Tout, c'est toujours des nouveautés musicales, des infos concerts, des infos culture. Vous retrouvez la playlist et la réécoute sur canalb.fr et vous y retrouverez les références des deux concerts que j'évoquerai tout à l'heure qui se déroulent ce jeudi 23 avril. Le premier est proposé par Ideo Spectacle avec Alas, Crocodile, Boogie et puis Bloodflower au 360 et puis un concert qui se proposera au Babazoula avec le collectif de la Tête à l'Est et son Bœuf à l'Est. Avant ça, on aura pu parler avec l'autrice rennaise Cécile Kerel de sa nouvelle qui figure dans ce recueil Reine Noire qui est publié le 7 mai prochain par la maison d'édition Asphalt. 10 auteurs et autrices rennais et rennaises se sont baladés de quartier en quartier et nous proposent des nouvelles assez horrifiques, parfois très sombres évidemment, et puis avec quelques meurtres à la clé. On retrouvera Cécile Kerel qui, elle, nous parlera de Clunet. On commencera l'émission avec trois nouveautés. King Tuff pour commencer, les Rennais de The Flying Bones ensuite, et puis tout à l'heure, Anadol et Marie Clock. On commence donc avec le retour aux affaires très rock'n'roll de King Tuff. En 2023, il sortait un album assez arrangé, un peu plus pop que son d'habitude, et il s'est senti un petit peu perdu dans cet album-là. Il n'avait pas trop de plaisir à le jouer en live, et là, il est revenu avec ce qu'il avait de plus sauvage à ses débuts. On va entendre un extrait de l'album Mou pour King Tuff, rock'n'roll, un peu glam, tout à fait bien écrit cet album, qu'il a enregistré juste avec sa Gibson SG bleue et son Tascam 388, le même magnétophone que celui qu'il utilisait pour son premier album King Tuff Was Dead. Si vous aimez Kevin Morby, si vous aimez Ty Segall, c'est un petit peu à la croisée de ces chemins-là qu'on retrouve King Tuff. Voici, pour débuter l'émission, le morceau Twisted on a Train. Bonne émission.
We can walk.
duo rennais de Flying Bones à l'instant avec ses 2 minutes 35 secondes d'urgence pure. C'est comme ça qu'il nous le propose, en tout cas ce morceau Coltrane. On n'est pas entendu les saxophones, c'était pas forcément free jazz, mais c'était très très fuzz ce que vous avez entendu pour le duo guitare-batterie. Un morceau imaginé comme ça, en live, et qu'ils ont voulu figer tel qu'était née cette improvisation sauvage. C'est très réussi. On poursuit dans une rencontre entre Istanbul et Paris avec le nouvel album, le deuxième pour Anadolu, la Turque, et Marie Clock, la Parisienne. L'album, c'est Manivelles au pluriel. Il sortira le 15 mai prochain et on y retrouve le morceau qui va suivre, un morceau qui est né après un mini tremblement de terre qui aurait pu être un peu plus effrayant sans doute si Marie Clock n'avait pas été accueillie à bras ouverts par Anadolu. Elles ont bu du thé, elles se sont imaginé un album et l'album sort très bientôt. Voici le titre Magnitude 6.3 et puis juste après on parle avec Cécile Kerel de sa nouvelle Le bal de la mort qui figure dans ce chouette recueil Reine Noire, Nouvelle Noire, parution chez Asphalt le 7 mai prochain. On recevra pas mal des auteurs et des autrices de ce recueil d'ici les semaines à venir.
A forcément quelque chose à te dire. De même que cette corneille perchée sur la tête d'un aigle de béton. Quant au pont sur le détroit, deux files de voitures s'y croisent jour et nuit. Et dans chacune de ces voitures, une personne au volant qui a forcément peur de quelque chose. Trois autres ponts sur ce détroit, 200 détroits dans le monde. Les raisons d'abandonner se ramassent à l'appel. Ça ira mieux demain, la vérité si je mens. S'assoit tous les jours sur le même banc, vêtu du même t-shirt, du même sweat à capuche, des mêmes yeux tristes de collégienne qui redouble sa troisième depuis 15 ans. Pendant qu'elle cherche des réponses dans le vol des oiseaux, se rend-elle compte que la maison est en mouvement, que les gens partent en courant, qu'un chat de gouttière vient de chier sous son banc? Les raisons d'abandonner se ramassent à l'appel. C'est à la mort.
Gibraltar, Magellan.
Ça ira mieux demain, la vérité si je mens.
Magellan, Gibraltar.
Prends un bateau et pars. Pars, 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 pars.
Dans la page culture de l'émission Le Grand Tout, que vous écoutez en ce moment sur Canal B, on va rencontrer une participante à ce recueil de nouvelles noires, Reine Noire, présentée par Loïc Desroches. Ça paraît le 7 mai prochain chez Asphalt Édition. Je ne vous dis pas qui on va retrouver, mais vous allez entendre l'autrice de la nouvelle qui va suivre et qu'on évoquera tout à l'heure, nous en lire un extrait. On se balade du côté de Clunet maintenant.
Nous entrons. Les ateliers du vent sont remplis de vampires, de fantômes, de squelettes. L'ambiance est électrique. De gigantesques têtes de mort en carton s'élèvent au-dessus de la foule. Un autre jour, j'aurais trouvé ça très réussi. Nous dépassons le bar. Les bénévoles y sont costumés, joyeux. Tout le monde s'amuse. J'ai besoin de me rappeler ce que nous faisons là. Je chuchote. On reste pas longtemps. Pense à la Libye. On est un couple normal. On est venu faire la fête. Je l'entraîne sur la piste de danse pensant, c'est là qu'on nous verra le plus. Nous nous dandinons mollement, le cœur n'y est pas. Je pense pourtant, fais-toi remarquer. Il faut que des gens puissent témoigner que vous étiez à cette soirée. J'ondule de mes grosses fesses velues en direction de la scène. Jérémy m'accompagne. Nous nous fondons dans la liesse. J'agite bras et jambes dans une danse mécanique et ridicule. Plusieurs personnes commentent mon costume d'un pouce levé. Je me dis « Très bien, tout se passe comme prévu. » Soudain, je constate, enfer, que les lumières noires disposées au pied de la scène pour rendre lumineux le blanc des costumes révèlent le sang sur le costume de Jérémy. Je regarde mon gros ventre, mes bras, mes jambes. Nous sommes couverts de taches violettes, phosphorescentes. Je jette un regard catastrophé à Jérémy. J'ai toujours ma tête de lapin. Il ne me voit pas. Je le tire brusquement hors de la piste. Qu'est-ce qui se passe ? La lumière noire, le sang ! Il met une seconde à comprendre, puis ouvre grand une bouche horrifiée. Ça se voyait beaucoup ? J'ignore si quelqu'un a aperçu la chose. Je pense, nous sommes fous. Je préserve Jérémy et dis, non, on y va. Nous faisons le chemin inverse et sortons du bâtiment. La solitude de notre duo me rassure. Nous nous dirigeons en silence vers la voiture. Je pense, Nikita, cette marche en lapin et shérif pour rejoindre un soixantenaire recouvert de couches 4-8 kilos est un point de non-retour de ta vie.
Cécile Kerel, merci de nous avoir lu un extrait de ta nouvelle « Le bal de la mort ». Cet extrait de ce recueil présenté par Loïc Desroches, Reine Noire, Nouvelle Noire, 10 auteurs, autrices rennaises qui s'approprient un quartier et nous raconte une histoire où le sang est présent, la tienne, dans ta nouvelle, il est particulièrement bien présent, même si quelques couches vont permettre d'éponger un petit peu ce sang. Alors c'est une belle histoire, oui, pourtant noire, mais comique aussi, avec ces deux personnages, Nikita en gros lapin et puis Jérémy en shérif. C'est Halloween, vous avez compris. Ça se passe dans un quartier, Clunet, comme toutes ces nouvelles-là, d'ailleurs, vous avez toutes et tous choisi un lieu. Et le lieu emblématique de cette nouvelle-là, eh bien, ce sont les Ateliers du Vent, pendant un moment qui accueillent des vampires, des monstres de toutes sortes, notamment un lapin et un shérif. On ne croirait pas que ce sont des monstres. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à ce recueil-là, à faire partie de cette belle bande d'écrivains et d'écrivaines pour nous raconter cette histoire-là ?
Oui, alors j'ai été contactée par Loïc Desroches pour écrire une nouvelle noire, ce qui n'est pas du tout mon style, je dirais. Ceci dit, le précédent roman se passe dans un commissariat, donc il y a tout de même quelque chose.
C'est aveu de tendresse.
Aveu de tendresse, voilà. Mais en tout cas, la proposition, oui, c'était d'investir à un quartier. Et en discutant avec Loïc, le quartier de Clunet est apparu comme une évidence parce que pendant longtemps, j'ai travaillé, puis été artiste associé au collectif Les Ateliers du Vent. Et que du coup, c'est un quartier sur lequel j'ai eu l'occasion de bosser. Donc voilà, donc il m'a fait la proposition de partir de ce quartier pour écrire.
Alors Jérémy, Nikita sont un couple qu'on pourrait dire dysfonctionnel. On voit bien qu'ils se partagent les tâches plus ou moins bien, plus ou moins harmonieusement. Nikita s'occupe de la Fiat Punto. Mmh. Jérémy, lui, découche. Apparemment, mais pas tout le temps. Et tous les deux, ça commence par une sortie du centre commercial Clonay qui est juste à côté, hein, et ça va aller de crescendo hein, vers une nuit d'horreur finalement, mais avec beaucoup d'humour. Alors, tu tenais vraiment à ça pour écrire ce texte-là, à être à la fois un peu effrayante parfois, mais drôle en même temps ?
Bien, non.
J'ai pas prévu à la base.
Non, j'ai terminé la nouvelle et je l'ai fait lire à mon compagnon et je l'ai entendu s'esclaffer et je me suis dit, ah tiens, c'est drôle. Voilà, donc je savais pas. Mais oui, en fait, il y a quelque chose de drôle, je pense, dans la mécanique d'un couple très normal. Enfin, il est dysfonctionnel. Disons qu'en tout cas, ils viennent d'avoir un bébé. Et que...
Ça crée quelques remous un peu dans leur couple.
Bah oui, c'est, voilà, après un bébé, bah on se rend compte de la tâche, du nombre de choses qu'il faut faire. Et donc eux, ils ont opté pour une répartition des tâches. Et enfin, ils sortent, leur bébé, il a peut-être 6 mois, quelque chose comme ça. Enfin, ils sortent pour se faire une soirée et puis ça va leur faire un bien fou. Et c'est lors de cette soirée qu'il se passe quelque chose de catastrophique. Mais à la fois dans cette catastrophe-là, eh bien ça les soude parce que bah, face au danger, il faut bien faire groupe et être un peu un collectif.
Le collectif dans ce recueil de nouvelles, c'est pas forcément vu, c'est pas forcément parlé. Il y a eu quand même évidemment le fait qu'il fallait pas que vous marchiez sur les pieds comme ça. Tu t'es dit évidemment ça sera Clonay. Tu t'es pas demandé ah est-ce que peut-être j'aurais préféré un autre quartier de Rennes pour mettre en scène mon histoire ?
Non, parce que si je dois être complètement honnête, je savais pas du tout ce que j'allais écrire. Je trouve que des fois la contrainte, c'est une nouvelle que je n'aurais pas écrite si on ne m'avait pas invité à l'écrire, et que la contrainte est vraiment fertile dans ces cas-là. Je me dis bon, qu'est-ce qui se passe ? Je prends Clonay, on m'attribue Clonay. Qu'est-ce qu'il y a dans ce quartier-là ? Il y a les Ateliers du Vent, je les connais bien. Il y a ce gigantesque centre commercial. Et il y a un peu plus loin les étangs d'Apigné. Comment est-ce qu'avec tout ça, j'arrive à faire une histoire ? Ça, je trouve ça intéressant. Et peut-être que si j'avais choisi mon quartier, vraiment, enfin, si je m'étais dit, ah, c'est... peut-être que ça aurait été plus compliqué à écrire finalement.
Est-ce que tu as fait comme tout bon écrivain, écrivaine, tu allais sur les lieux pour repérer, pour te dire est-ce que ça sera plausible ? Est-ce que ce moment près des étangs d'Apigné ou près de la voie de chemin de fer qui juste passe le long des Ateliers du Vent, est-ce que tu as allé sur les lieux du crime, je vais dire ? Y a-t-il un crime ?
Bon, en tout cas, ils essayent de cacher un corps quand même. Mais oui, alors oui, la réponse est oui, mais aussi parce que j'y vais tellement souvent dans ce quartier que de toute façon, j'avais pas besoin de prendre le train pour aller très très loin et visiter cette ville. Et puis les étangs d'Apigné, et donc les étangs d'Apigné, il y a bien sûr ce grand étang qu'on connaît tous et toutes, et puis tout à côté des étangs d'Apigné, il y a plein de petits étangs dans lesquels on peut se baigner et qui sont des endroits de rencontre aussi. Et donc voilà, ça devient un personnage à part entière de cette nouvelle.
Est-ce que tu penses que ce recueil va être considéré comme une sorte de guide de voyage à Rennes par les lecteurs, les lectrices ?
Ben, moi, en tout cas, je ne sais pas, mais moi qui connais bien Rennes, enfin, ça fait des années que je vis, j'ai hâte de revisiter cette ville à travers les yeux d'autres personnes. J'imagine que quand on vit dans une ville plus... je veux dire romanesque comme Paris, c'est-à-dire un endroit où on a l'habitude de lire et de voir des choses sur Paris. Et je pense que ça fait plaisir quand on est parisien de reconnaître des endroits qu'on fréquente et qui deviennent un endroit de fiction. Et c'est moins courant quand on vit dans de plus petites villes. Et donc j'ai hâte de ça, de lire comment, à travers les yeux, le regard d'autres auteurs et autrices, comment cette ville elle existe dans la fiction.
Alors c'est sûr que la rue Alexandre Duval est moins chargée d'imaginaire que le boulevard Montparnasse, par exemple.
Bah, par exemple.
On pourrait le dire. On va faire une petite pause musicale. Je t'ai demandé deux sélections que tu avais envie de nous faire entendre. La première de ces deux-là, eh bien, ça va être ce titre « Réparer le monde » par Léonie Pernet. Quand vous aurez lu la nouvelle de Cécile, je ne sais pas si vous direz qu'on répare un petit peu le monde à travers la lecture de ce texte-là, mais bon, voilà, on écoute en tout cas Léonie Pernet.
Qui, au fond, nous empêche qui fait que l'on laisse jusqu'à l'ombre de ce qui nous reste. Regarde ce qui nous reste. Qu'est-ce qui tant nous encombre? Est-ce qu'il nous incombe de réparer un peu le monde? Qu'est-ce qui au fond nous empêche? J'en fais le serment devant vous sciemment. Je tracerai dans le monde, ne serait-ce que l'esquisse, pour chaque étoile qui tombe, pour nos filles et nos fils, d'une armée de colons.
On écoutait à l'instant « Réparer le monde » choisi par Cécile Kerel. C'est un titre de Léonie Pernet. Cécile est notre invitée aujourd'hui, une des premières à venir parler de sa nouvelle « Le bal de la mort ». Voilà, extrait de « Reine noire », des nouvelles noires, 10 auteurs, autrices rennais, Makodou Atolodé, Nathalie Burel, Cécile Kerel, Benjamin Dierstein, bien d'autres seront nos invités pour venir nous guider dans le quartier choisi pour y planter une histoire qui fait un peu peur, qui fait un peu rire. Là, c'est un peu les deux concernant le texte de Cécile. Et quand on n'a pas l'habitude d'écrire forcément ce genre de texte-là, tu as d'abord imaginé les personnages, une fois que tu savais dans quel lieu ils évolueraient. Comment elle est née, cette histoire?
Eh bien, oui, alors Je ne suis pas une lectrice du genre noir. Il y a quelques romans noirs que j'ai pu lire parce que ça fait partie des romans qu'on peut se retrouver à avoir dans sa bibliothèque sans être une fan du genre. Mais c'est pas la littérature que je lis habituellement. Et donc ce que j'ai fait pour commencer à écrire cette nouvelle, c'était les personnages, mais c'était surtout les situations. Me demandant, moi j'aime bien. En tout cas, j'aime bien lire et voir des romans ou des films dans lesquels on sent que les personnages sont petit à petit emprisonnés dans une situation parce qu'ils prennent les mauvaises décisions, mais sur le moment, ils ont le sentiment que c'est la seule décision qu'ils puissent prendre.
Ça me rappelle l'univers des frères Cohen, par exemple, ça.
Oui, c'est un peu ça. Où je pensais à un autre film, donc In Bruges. Dans ce film-là, on voit deux tueurs à gages à Bruges et en fait on les voit évoluer dans cette ville, donc il y a également cette ville qui est un vrai personnage du film, mais on les voit surtout dans une mécanique où le moindre geste de ce qu'ils font va prendre une ampleur folle et petit à petit dans un esprit d'escalier ou de boule de neige, une chose qui semblait complètement anodine au début du film devient ce qui fait que le piège se referme. Et ça, je trouve ça jouissif quand on est spectateur, spectatrice ou lecteur, lectrice, qu'on se dit « Ah, j'avais pas vu que, j'en sais rien moi, cette enveloppe postée à ce moment-là va devenir l'arme du crime d'une certaine manière. » Et donc là, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire que je dispose au début de cette nouvelle des choses. Ils ont un enfant, ils achètent des couches, les couches vont devenir très importantes, le siège bébé va être très très important. Absolument tout va avoir, le fait qu'il soit costumé va avoir une importance, etc. Et que tout que rien ne soit gratuit et qu'à la fin on dise ah bah la boucle est bouclée et donc en tant que lecteur lectrice on se dit ah donc depuis le début ils ne le savaient pas et nous non plus en tant que lecteur lectrice mais ils se sont enferrés tout seuls et ça je trouve ça intéressant.
Dans ce recueil de nouvelles, il n'y a pas forcément la personne du détective, il n'y a pas beaucoup de policiers non plus, ce qui est pas mal parce qu'en fait, ça pourrait être un peu cliché finalement. Et puis dans ces 10 nouvelles, il y a juste un enquêteur, mais un ancien en fait. Bon, c'est pas dans le texte de Cécile. Il y a vraiment le côté un peu bracassé hein, chez ces deux personnages-là, un petit peu pied nickelé quoi. On a envie qu'ils s'en sortent et on se dit à un moment, mais ils vont pas y arriver en fait. Et puis, vous verrez comment ils s'en sortiront. Est-ce que ça t'a donné envie peut-être, alors pas forcément d'aller vers plus de lecture du genre noir de ton côté, mais d'écrire des choses un peu plus sombres à l'avenir.
Ben oui, mais je me rends compte que même quand je veux écrire quelque chose de noir, c'est un peu drôle. Enfin là, j'avais pas ce sentiment-là, donc je me dis bon. Et c'est très bien. C'est un résultat positif. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer. Non, ce que j'aime par contre dans ce genre-là, c'est ça, c'est la mécanique, c'est-à-dire que c'est vraiment de la dramaturgie, c'est-à-dire que dans certains romans, alors évidemment qu'il y a du style dans le roman noir, hein, ça, il n'y a pas de doute, mais le roman noir a tout de même cette spécificité d'installer des situations et des personnages où on sent bien que de toute façon, l'auteur, depuis le début, savait exactement ce qui allait se passer. Et cette mécanique-là, ce Rubik's Cube voilà, qui se referme, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça assez captivant à réutiliser partout.
Toi, tu animes aussi, en plus d'être autrice, écrivaine, et puis tu écris aussi pour le théâtre, tu animes des ateliers d'écriture. Est-ce que ça va faire partie des orientations que tu amèneras vers certains ateliers, cette manière précise d'écrire dans le roman noir, par exemple ?
Oui, en tout cas, j'accompagne certains manuscrits dans l'écriture et c'est une manière de travailler que je propose en tout cas, de se questionner sur vraiment utiliser absolument tout ce qu'on amène pour que rien ne soit gratuit, par exemple, ou se questionner sur comment mettre le personnage le moins habile dans la situation la plus extrême. C'est-à-dire que là, par exemple, si les personnages étaient... il leur arrive une situation catastrophique, mais ils sont tout à fait, ce sont des personnages sereins, raisonnés, qui savent gérer avec l'angoisse, l'urgence. Bah, il y a moins d'histoires. Alors que si là, on met un couple un peu dysfonctionnel qui de toute façon ne sait pas du tout gérer ça, et en fait, monsieur et madame tout le monde, mais en plus de monsieur et madame tout le monde, cette situation de conflit latente qu'il y a entre eux, je trouve que l'histoire fonctionne mieux. Et donc ça, c'est des mécaniques, oui, qu'on peut évoquer en atelier d'écriture ou en accompagnement de manuscrits.
Ce que j'aime bien aussi dans cette nouvelle, c'est la double vision qu'on a. C'est-à-dire, il y a un auteur omniscient, mais on est aussi dans la tête de Nikita, la plupart du temps, qui, elle, juge tout ce qui se passe en se disant, mais bon, Jérémy, elle a l'air d'être amoureuse de lui, mais quand même, qu'est-ce qu'il est pénible, quand même.
Ouais, bah, il est un peu à côté de la plaque. Voilà, c'est un être un peu tendre, je dirais, et qui se rend pas bien compte des conséquences de ce qu'il est en train de faire. Et elle est plutôt... elle est décidée, et en même temps, elle sait pas beaucoup mieux que lui faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire cacher un corps, bon ben... Voilà, c'est drôle parce que c'est une question qu'on se... Je vais passer pour une psychopathe, mais c'est une question qu'on se pose avec nos amis et on se dit, tiens, si on devait cacher un corps, lequel de nos amis on appellerait? Parce qu'il y a des personnes qu'on n'a pas du tout envie d'avoir avec nous dans ce genre de moment, parce que justement, angoisse ou mauvaise décision, et il y a des personnes, on se dit, oh, si je devais cacher un corps, ouais, j'appellerais bien lui ou elle, parce que je pense qu'il saurait faire...
En tout cas, d'une petite expédition couche chez Leclerc-Clenay jusqu'à peut-être des perspectives de recherche de champignons dans la forêt. Je ne dévoile rien en dévoilant tout, c'est assez amusant. J'aime bien le faire comme ça. Vous aurez l'occasion de frémir en compagnie de Nikita et Jérémy, et puis aussi de vous moquer un petit peu d'eux, et puis de vous dire, tiens, j'irais bien peut-être à la prochaine Vilaine Frayeur aux Ateliers du Vent pour voir s'il n'y aurait pas des costumes qui seraient peut-être pas des costumes en fait. Mm-hmm. Je pense que tu seras à nouveau, Cécile, à la prochaine Vilaine Frayeur.
Ben oui, parce que c'est vrai que la nouvelle se passe au bal de la mort, qui est un véritable bal, et donc ça donne le titre à cette nouvelle, qui est un véritable bal qu'organisent les Ateliers du Vent à l'occasion d'Halloween, où tout le monde se costume, et c'est un vrai moment festif réussi, je trouve.
Ici aussi, hein, comme dans le dernier spectacle que tu proposais, notamment à la fête du livre de Hédé, tout est vrai, ou presque.
Ou presque.
Merci Cécile, on va terminer avec un morceau que peut-être nos personnages auraient entendu à ce bal de la mort des Ateliers du Vent. Une deuxième sélection, là tu nous proposes d'entendre Lucie Antunes, Vous êtes parfait et parfaite, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Jérémy et Nikita. Merci Cécile.
Merci.
Vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite,
vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous êtes parfait, vous êtes parfaite, vous.
Vous avez envie de rencontrer les auteurs et les autrices de ces nouvelles qui figurent dans Reine Noire à paraître chez Asphalt, et bien la possibilité de les rencontrer et de les faire signer vos exemplaires, ce sera offerte le 6 mai prochain à la librairie Le Fayre, rue Saint-Georges. Dans la session info-concert du jour de l'émission Le Grand Tout sur Canal B, deux événements. Le premier, jeudi 23 avril, ce sera au 360 où vous retrouverez une soirée idéo spectacle avec Alas, Crocodile Boogie et Blood Flower. Et puis le deuxième, c'est le même soir, toujours jeudi, mais cette fois au Babazoula avec le collectif de la Tête à l'Est qui présente son Bœuf à l'Est. On commence avec cette soirée assez mélangée. Jeudi soir au 360, c'est le grand bâtiment tout de verre. colère vêtue qui fait face à l'esplanade du Général de Gaulle. Vous le connaissiez sous le nom du 4 bis auparavant. Et bien le 360, c'est cette superstructure qui unit l'ancien 4 bis et puis la maison des associations, où se trouvent d'ailleurs les locaux de Canal B, d'où je vous propose cette émission aujourd'hui. Le concert proposé par Idéo Spectacle jeudi soir vous permettra de retrouver un duo de sœurs québécoises qui nous balade entre soul, folk, blues, avec quelques élans rap aussi, avec guitare dans une boîte de cigares, basse, chant, et puis aussi du violon pour l'une des deux frangines et des percussions. Très très singulier l'univers de Bloodflower qu'on écoute dans un instant. Et puis vous entendrez aussi juste après Alas, projet d'un one man band pendant plusieurs années. Il se proposera à vous en format trio, chanson rock poétique francophone, avec à la réalisation Romain Baousson. On écoutera le titre La Lali par Alas, mais pour commencer, voici ce morceau Cry par Bloodflower.
Truth. quel espace nous alloue l'arrogance. Seule l'audace nous épargne aussi.
Alas, à l'instant, avec le morceau La Lali, vous retrouverez Alas en formation en groupe cette fois-ci, et puis aussi les frangines de Bloodflower qu'on écoutait auparavant, jeudi soir, jeudi 23 avril au 360 pour un concert proposé par Ideo Spectacle. Vous y retrouverez aussi les Crocodile Boogie qu'on ne présente plus avec leur deuxième album Old School Man Blues. C'est un groupe rock'n'roll grandement inspiré par certaines formations australiennes comme Beasts of Bourbon. Si vous écoutez de temps en temps sur Canal B l'émission Blues Shit le samedi à 11h30, eh bien vous reconnaîtrez la voix peut-être de Crocodile Boogie qu'on écoute immédiatement avec ce titre Most of the Time. Crocodile Boogie, on les écoutait à l'instant, et puis vous retrouverez aussi Blood Flower, et puis Alas le même soir, jeudi 23 avril, ce jeudi au 360, à partir de 20h, un concert proposé par Ideo Spectacle. On poursuit et on termine déjà les infoconcerts et l'émission Le Grand Tout du jour avec ce buff proposé par le collectif de la Tête à l'Est. Ils seront toutes et tous au Babazoula, avenue du Général George Patton, pour un buff à l'Est. Allez-y les rejoindre, vous pourrez même y participer si vous venez avec vos voix et vos instruments. On termine avec un morceau justement par le collectif La Tête à l'Est, c'est ce morceau Zingen. On se retrouve mardi pour à nouveau parler polar, à nouveau parler reine noire. On recevra cette fois-ci l'autrice rennaise Nathalie Burel. À bientôt pour de nouvelles aventures. Retrouvez, je vous le rappelle, playlist et réécoute, et puis toutes les références des concerts que j'annonçais à l'instant sur canalb.fr. Ciao.
Et au bâton, on s'en souvient. Les mille pleureuses aux yeux de coule qui imposent la trêve dans l'horreur, sauvant les âmes au mauvais rôle dans des cascades salées d'honneur, on s'en souvient.
vient dans les tranchées. Les cœurs de la chair à canon qui se déchirent et qui s'entonnent comme dans la chanson de Crown. On se souvient des barbelés sous le yiddish et le tambour. Auschwitz qui chantonne à tue-tête pour camoufler le bruit qui court. Un peuple qui chante ne meurt jamais. D'ailleurs, on s'en souvient. On s'en souvient belle à Chao qui dans les maquis Ritalo faisait des hommes des frères de sang, faisait de l'espoir au matin blanc. Et l'estaca de l'Espagna, Franco qui n'a qu'à bien se tenir, car dans la corde que l'Empire tire, le pieu de la rage répond le pire. Et la belle Mercedes Sosa qui dans les contrées du tango donne la force à su pueblo que jamás será vencido. On s'en souvient. Et les marins dans la tempête qui se serrent les coudes et appellent du rhum, des femmes et de la bière au nom d'un dieu ou de la belle. Les cavaliers des steppes mongoles qui dans leurs cordes diphoniques se mêlent au vent et aux lucioles d'une Oulan-Bator nostalgique. Et les bretons, corses, occitans qui gardent leur terre en chanson. Et les créoles qui créolisent, qui inventent et néologisent. Un peuple qui chante ne meurt jamais. Mémoire, veillée au coin du feu. Histoire et s'aimer en continu. Nos histoires, avec un petit H, avec un S de multitude, qui nous tiennent debout, dans le sillage de nos anciens, qui soufflent sur nos pas un peu d'argile, un peu de vin. Un peuple qui chante ne meurt jamais. Alors chantez maintenant.
Un peuple qui chante est un peuple qui ne meurt jamais.